Je vous invite à lire ce matin un passage, qui est un des passages, quelques versets d'un des plus connus qu'on a dans la Bible. C'est dans Matthieu 5, les versets 13 à 16. Matthieu 5, déjà Matthieu 5, ça nous dit quelque chose directement. Les versets 13 à 16. C'est vous qui êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon qu'à être jeté et foulé aux pieds par les hommes. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Vous êtes le sel de la terre. Curieux de comparer les chrétiens à du sel. C'est pas évident comme ça. Mais il faut un petit peu reprendre un petit peu de l'histoire pour voir comment c'était important et comment c'était compréhensible pour les gens de l'époque. Le sel est connu depuis la préhistoire pour ses caractéristiques d'assaisonnement, de conservation des aliments. Il a probablement été utilisé aussi pour des rites religieux chez les Hébreux, les Grecs, les Romains de l'Antiquité. En tout cas, on en trouve beaucoup de traces. Cet élément naturel qu'est le sel a revêtu une grande importance stratégique, économique, et a fait l'objet d'un commerce important, parfois sur de grandes distances. On connaît les routes du sel, par exemple. Si vous cherchez un petit peu dans l'histoire, dans la géographie, vous allez trouver les routes du sel. Les routes du sel étaient des grandes voies de communication et d'échange depuis l'Antiquité pour l'acheminement du sel, justement, transporté depuis les pays où il était produit jusqu'aux endroits où il serait consommé. Les régions qui en étaient dépourvues. Le contrôle de l'approvisionnement en sel fut l'une des clés de l'expansion militaire de l'Empire romain, qui s'en est attribué le monopole. Les armées de conquête de César emportaient avec elles des salaisons et assuraient ainsi une grande partie de leur approvisionnement. Sans ces salaisons, les armées n'auraient pu recourir qu'au pillage des territoires conquis pour pouvoir survivre. Cette stratégie a limité les résistances et a assuré une implantation durable de la civilisation romaine. Le rôle du sel comme clé de l'approvisionnement militaire va durer jusqu'à l'invention, au XVIIIe siècle, des techniques nouvelles d'extraction du sel. On a trouvé en France, dans les Alpes de Haute-Provence, une exploitation de sel qui datait de 5800 ans avant l'ère chrétienne. C'est dire que ce n'est pas d'aujourd'hui. Il a également les vertus de conservation pour les aliments, ça nous le connaissons, car il absorbe l'eau qui est contenue dans ces derniers, en les desséchant, il élimine les microbes. C'est aussi grâce à lui que les gâteaux, le pain, vont pouvoir gonfler. En hiver, il fait fondre la neige. Et vous savez qu'environ 51% de la production mondiale est consacrée aux pays froids pour faire fondre la neige. Pour l'entretien des routes. On utilise aussi à l'envers les propriétés du sel de certains pays pour lutter contre la poussière en été. Il rend la vaisselle brillante, il empêche les tissus de déteindre. Le sel est donc un minéral important, très important dans la vie. C'est une petite substance, toute petite, vous le savez, mais grande par sa valeur, avec beaucoup d'applications dans les mots de tous les jours et dans la vie de tous les jours. Les soldats romains étaient payés en sel, bien souvent, d'où le mot salaire. Si le sel et son image sont étroitement liés à l'histoire du peuple hébreu, c'est qu'il était très abondant en Israël, grâce à la mer morte. C'était une véritable richesse. Mais le sel de la mer morte n'était pas pur. Il était rempli de toutes sortes d'impuretés, des résidus calcaires, des débris de végétaux, des minéraux sans valeur, des traces de pollution déjà, et tout un tas de saletés diverses. Et pourtant, ce sel impur referme en lui les grandes qualités du sel qu'il va transmettre à la matière qu'il va côtoyer ou qu'il va toucher. Ainsi, il va par exemple pouvoir effacer l'amertume, l'acidité, le goût sucré et mettre en évidence les qualités d'un mets. Pour l'homme en général, le sel est donc à la fois intéressant, mais surtout indispensable à la vie, à la conservation, à la purification. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Peut-être faudrait-il commencer par réfléchir si moi-même, à l'image de ce sel, moi qui suis d'abord un être impur, avec plein d'impureté, comme dans le sel, j'ai au-dedans de moi ces qualités qui me rendent pur et donc sont susceptibles de purifier autour de moi. C'est tout ce qu'il y a dans ce verset. Saler la terre. Saler la terre. C'est curieux, ce mot, saler la terre. Vous êtes le sel de la terre. Saler la terre est donc le ministère premier du croyant. Colossiens 4, verset 6. Que vos propos soient toujours bienveillants, relevés de sel, avec l'art de répondre à chacun comme il faut. Une indication sur notre comportement avec cette idée de sel. Dès lors, nous devons nous faire à l'idée que notre vie de témoin est de saler le monde. C'est-à-dire d'être, pour le monde qui nous entoure, ce petit cristal qui va donner une saveur. La vie de l'Évangile, vie d'obéissance au Seigneur, est d'être témoin, et d'être ses témoins, mais des témoins qui ne soient pas insipides, des témoins qui ne soient pas sans goût. Un témoin qui est sans goût, qui n'a rien à dire, va passer inaperçu. Donc le Seigneur souhaite que nous ayons du goût et que nous puissions mettre la valeur de ce goût autour de nous, comme dans un bon mets qu'on va apprécier parce qu'il est bien relevé, épicé ou juste salé et que les goûts ressortent. Aussi faut-il pour cela baser cette vie selon les principes mêmes enseignés par le Seigneur. Des principes comme l'humilité, la justice, la sainteté, la charité, autre mot pour l'amour. Mener une vie saine et libre devant Dieu et les hommes, et pour cela, il n'y a qu'une seule solution, c'est d'avoir en nous les paroles de l'Évangile, les paroles du Christ, et de les mettre en pratique. Mettre en pratique la parole de Dieu. Réfléchissons. Si nous témoignons d'un Dieu vivant, alors pourquoi serions-nous morts ou paralysés devant ce Dieu vivant? Si nous sommes conscients que Dieu parle par sa parole, par la parole de Dieu, nous l'avons nommée, nous, la parole de Dieu. Alors pourquoi resterions-nous muets? Si nous sommes convaincus que Dieu est en marche à nos côtés, alors pourquoi resterions-nous immobiles? La Bible nous encourage et nous met en garde à ne pas devenir tiède. Vous connaissez ce mot dans la Bible? Il n'y a pas beaucoup d'endroits où on a ce mot dans la Bible, le mot tiède. C'est-à-dire pas ou peu engagé avec Dieu. C'est-à-dire sans saveur devant Dieu. Sans saveur, puisque nous ne salons pas. Apocalypse 3, 16, « Parce que tu es tiède et non froid ou bouillant, je vais te vomir de ma bouche, parce que tu es tiède, parce que tu n'as pas cette saveur qui est capable de saler, je vais te vomir de ma bouche. » Mais elle nous met en garde aussi contre nous-mêmes d'abord de ne pas rester simplement debout, immobile, sans rien faire, sans saveur, et aussi de nous méfier de nous-mêmes, et de la saveur que nous penserions nous-mêmes avoir. Ainsi, Ainsi donc que celui, à Corinthiens 10, 12, ainsi donc que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Nous avons lu dans notre texte de Matthieu, si le sel perd sa saveur, avec quoi est-ce qu'on va lui rendre cette saveur? Et vous avez vu ce qui est marqué. Il n'est plus bon qu'être jeté dehors et foulé aux pieds. Mais, chers amis, est-ce que nous, chrétiens, si nous avons perdu cette saveur, c'est pas comme ça que le monde nous considère? Sans aucune valeur? Foulé dehors et jeté dehors et foulé aux pieds, c'est-à-dire méprisé? Méprisé comme bien souvent les chrétiens le sont dans beaucoup de pays? Mais on peut aussi dire que si les chrétiens sont méprisés dans beaucoup de pays, et dans les pays de la persécution, c'est justement aussi parce qu'ils sont ce sel de la terre. Et peut-être devons-nous réfléchir, nous, dans nos pays occidentaux, nos pays nantis, au fait que si nous sommes foulés aux pieds, jetés dehors et foulés aux pieds, c'est peut-être parce qu'au contraire, nous n'avons pas de saveur. Nous n'avons plus de saveur. Froid ou bouillant, mais pas tiède. C'est ce que le Christ nous a demandé. Le Christ semble nous dire, au travers de ces différentes phrases, chrétiens, attention ! Attention à l'humidité, pas à l'humilité, hein, à l'humidité. Oui, nous chrétiens, nous pouvons, comme le sel, nous dissoudre. Totalement. Nous dissoudre, nous diluer, parfois lentement, parfois sans nous en rendre compte, et petit à petit perdre totalement notre saveur, celle qui nous vient de la présence de Dieu en nous, cœur impur, et de son action en nous. Cette saveur salée dont notre monde a besoin a comme source première notre relation avec Dieu. Notre relation. Et si nous n'avons plus de saveur, c'est peut-être que notre relation avec Dieu, elle, n'est plus correcte. C'est son esprit qui nous purifie et nous apporte cette saveur particulière. Alors, beaucoup d'éléments peuvent diluer le sel du chrétien. Manque de sérieux dans la vie de disciples, manque de persévérance, manque de conviction et de foi, manque de fidélité, manque de liberté, et c'est important, manque de liberté, manque de se sentir libre, libre d'attester vraiment ma foi en Dieu. Manque de rigueur dans les bases que je puise dans la parole de Dieu et dans leurs applications. Comment est-ce que je le vis au quotidien? Manque tout simplement d'engagement personnel, d'engagement avec Dieu, d'engagement dans le corps du Christ. Le premier don que Dieu nous donne, c'est le don de la vie, mais de la vie avec lui, pour une vie à son service et au service du prochain. Et ça passe d'abord par notre groupe familial, par notre petit groupe de relations, par le groupe de l'Église, au service. Un chrétien ainsi dilué va devenir insipide, va devenir un homme semblable au quidam, à n'importe qui, sans aucun relief, sans plus de saveur particulière. Et c'est clair que dans ce cas-là, le monde va le piétiner. Le rouleau de compresseur du monde va le piétiner. Est-ce que nous sommes, nous, conscients que nous pouvons être jetés dehors? Où est passée notre foi, notre confiance en Dieu? Souvenez-vous du sel, ce sel impur de la mer morte. Lorsque le sel a fondu il ne restera que les impuretés. Les impuretés visibles, mais justement celles qui n'ont pas de valeur, qui sont juste bonnes à être jetées et foulées aux pieds. Cette image est difficile à accepter pour nous. Encore plus difficile à accepter quand nous nous rendons compte que notre société, notre monde, a besoin de ce sel. Notre monde actuel manque de plus en plus des bases les plus élémentaires de la vie, de la survie. Non seulement il ne les retrouve plus, ou nous ne les retrouvons plus dans notre monde, mais le monde ne les reconnaît souvent même plus, ces bases, comme base ou pilier d'une vie sociale, parce que d'abord elles ne lui conviennent plus, et parce que ensuite, souvent, il ne les connaît même pas. Il y a bien des causes à cela. Entre autres, peut-être, la laïcité, l'affaiblissement, le refus, et pour finir, la disparition de tous les principes judéo-chrétiens de nos sociétés modernes. Et vous vous souvenez de cet enjeu, il y a quelques années, dans l'essai d'une constitution européenne, où il y a eu tout un débat de savoir si on donnait à cette constitution encore une base, une relation à cette société judéo-chrétienne. Et cette notion a été évacuée totalement. Et donc, rejet ensuite de toute idée de religion, de ce qu'est la religion, ou de ce qu'est l'importance de la religion. C'est aussi le rejet par l'homme. Et quand on dit le rejet par l'homme, c'est bien souvent nous que nous devons remettre en question, le rejet par l'homme de tout ce qui le contraint, ou le gêne, ou l'embarrasse, ou lui prend du temps, ou devient secondaire pour lui. Je veux faire moi seul ce que je veux, quand je veux. Je sais mieux que quiconque ce qui est bon pour moi, et je n'ai besoin de personne. Donc pourquoi j'aurais besoin de Dieu ou d'un Dieu ? Pourquoi ? Puisque je peux faire tout seul, et je sais faire tout seul, de toute façon, et je sais mieux que tout le monde. C'est encore la notion de Dieu lui-même qui s'évapore. La foi qui se transmet de plus en plus difficilement d'une génération à l'autre. Sorte de perte de notre origine même. D'où je viens, quelles sont mes racines, quelles sont mes valeurs. Et je crois qu'on se rend souvent compte que pour avoir vraiment une notion de racine, on doit avoir été déraciné un moment, souvent, pour retrouver ces notions de racine. Je suis allé écouter il y a quelques semaines une conférence sur une étude sociologique sur la transmission du sentiment religieux dans les 50 dernières années. Et le constat était, toute religion confondue, que ni la famille, ni l'Église, actuellement, ne transmettaient de vraies valeurs. Systématiquement, j'entends. C'est-à-dire que la famille n'arrive plus à retransmettre, comme autrefois, une vie de religion très stricte à la descendance au fur et à mesure, pour diverses choses, parce que les couples se séparent, parce que l'assiduité n'est plus la même, parce que les enjeux ne sont plus les mêmes, parce que l'offre d'activité n'est plus la même. Et pour finir, l'Église aussi, parce que de la même sorte, les familles ne côtoient plus si régulièrement l'Église, ne sont plus engagées de la même façon. Et le constat était que, constat final, était que, en fait, les familles et l'Église allaient retransmettre à chaque personne qui est là, allaient remettre un espèce de logiciel, un petit CD, comme ça, que chacun avait quand même au fond de lui, ou dans sa poche, ou dans son cœur, je dirais. Puis à un moment ou à l'autre de la vie, selon ce qui allait se passer, de bien ou de mal, ben, quelques bribes allaient ressortir. À ce moment-là, on peut ressortir le CD, et peut dire, ah oui, tiens, et peut-être là, il y a un retour qui vient à l'Église. Personne qui revienne, parce que le moment est plus difficile, etc. Mais une ligne vraie de vie, de transmission de vie, est de plus en plus absente de nos familles et de notre société et de nos églises. Et ça, on doit bien l'admettre quand même aussi. Donc c'est une réflexion aussi sur cette notion de Dieu qui s'évapore et de l'importance d'avoir des racines fortes pour pouvoir les transmettre. d'une façon claire et d'une façon libre. Et puis, bien sûr, c'est la normalisation aussi qui va nous faire perdre cette saveur. La rationalisation, l'uniformisation de tout, des besoins, des goûts. Vous savez que maintenant, on fabrique des aliments qui sont faits pour le goût des gens. C'est-à-dire, les gens, on sait que on fait des études sur le goût des gens, et puis on fabrique les aliments par rapport au goût des gens, pour que ça convienne, simplement. C'est plus c'est bon ou c'est pas bon, c'est ça va convenir. À la limite, on va provoquer cette chose-là. Et on fabrique, par exemple, les vins avec un goût pour telle population. On sait que tel vin, il sera plus apprécié. Donc, on va faire un mélange de cépages pour que tel pays apprécie ce vin, qui ne sera absolument pas apprécié dans son pays d'origine. Et comme ça, on va fabriquer des goûts. Mais on est loin de notre sel et de notre saveur qui nous vient de Dieu. La pensée aussi unique, de plus en plus souvent, mais cette pensée unique qu'on essaye de faire fonctionner, évacue la pensée de Dieu totalement, et pour finir, évacue le Dieu entier lui-même. C'est bien le problème de nos sociétés. L'importance prise par les médias aussi peut nous faire fondre, peut faire fondre le chrétien. L'influence des médias, l'impact, les mots forts qui sont choisis, les images fortes qui sont montrées, que nous ne voulions pas, nous formatent, nous fabriquent, nous mettent dans un cadre. Mais dans ce cadre, dans ce moule de terrien, il n'y a pas la notion de Dieu. Il n'y a pas la notion de Dieu. La notion de Dieu, nous allons la garder avec la relation que nous avons avec Dieu et avec la parole de Dieu. C'est aussi bien sûr la politique de masse, les options bien souvent prises par les dirigeants, soumises uniquement au marché et soumises au profit. Au milieu de tout cela, au milieu de tout ce monde dans lequel nous vivons, il est important que nous chrétiens, nous soyons ce sel qui a de la saveur. Nous devons nous révéler, mais ça ne devrait pas être un devoir de quelque chose qui est dur à faire, pas un devoir qu'on a encore à faire en plus, non, notre premier devoir, nous révéler en tant que sel et saler ce monde. Nous positionner en tant que chrétiens dans nos choix de vie par rapport à l'Évangile. Nous croyons en cette bonne nouvelle. Alors il nous faut en vivre. Il nous faut en vivre en affirmant clairement notre attachement à l'Évangile dans nos valeurs de tous les jours, familiales, relationnelles, dans le cercle de nos amis, de nos fréquentations, dans le cadre de nos travail, dans le cadre de nos loisirs. J'ai reçu un mot d'une personne une fois dans le bus, j'en ai été atterré. J'avais un accident de scooter et j'avais les deux bras en écharpe, et je descendais chez mon kiné en Suisse, et je me tenais à la barre, mieux que je pouvais, à la barre du bus, parce que ça secoue dans le bus. Et puis il y a un moment où ça secouait un peu plus, et j'étais projeté contre un monsieur qui m'a fusillé du regard, et à qui je l'ai montré, et je lui ai dit pardon. Il m'a regardé, il m'a dit, c'est pas mon problème. Ça m'a glacé parce que, ouais, ça m'a vraiment glacé. Je me suis dit, mais c'est pas possible de ne pas avoir, mais dans n'importe quelle circonstance, un mot de, je sais pas moi, de compréhension, de politesse, moindre. Et bon, j'ai dit, c'est triste, c'est vraiment triste, hein. Donc, nous positionner dans nos choix de vie, nous rappeler jour après jour ce que Dieu attend de nous. Et ça, c'est important. Nous rappeler jour après jour ce que Dieu attend de nous. En suivant l'exemple et la mission du Christ. Engagement de service. Alors, ça peut être l'image des dons, par exemple. Hein. Quel don Dieu m'a donné ? De quoi Dieu m'a équipé pour me mettre au service des autres ? Qu'est-ce que je fais, pas pour moi, mais pour les autres ? Engagement social. Qu'est-ce que je vois autour de moi ? Engagement social dans l'entraide, ça peut être n'importe quoi. Dans la justice, dans l'amour simplement, dans la charité. Et puis au-delà, un engagement citoyen aussi, avec tout ce que ça demande d'écoute, de respect aussi des uns et des autres, engagement peut-être écologique, peut-être politique, à chacun selon ses dons, à chacun selon ses sentiments aussi, puisés dans la foi en Dieu. Nous devons affirmer plus que jamais notre foi à nous. Nous sommes témoins et nous sommes sels. Le témoignage vient du témoin. Quand il y a un accident de voiture, on demande s'il y a des témoins qui disent ce qu'ils ont vu. Ils témoignent. Le sel va saler, va sentir. Et nous avons vu que la lumière va éclairer. Et cette histoire du boisseau qui est dure à comprendre, un boisseau c'est un tonneau, une mesure que l'on a retournée dans la pièce et sur laquelle on a posé cette chandelle. Et cette image, elle nous éclaire avec cela, au sens propre et au figuré, elle nous éclaire. Dans cette pièce qui est toute sombre, où il n'y a pas à cette époque d'électricité, il y a au milieu un tonneau retourné, qui est sûrement le seul meuble de la pièce, avec une chandelle dessus. Il ne viendrait à l'idée de personne d'aller retourner le tonneau sur la chandelle pour éclairer la pièce. Eh bien, le Christ nous demande la même chose, que nous soyons cette lumière au milieu de la pièce qui est le monde, pour éclairer cette pièce. Et puis, nous devons aussi savoir dire non, bien sûr. Et c'est peut-être ce qui est le plus difficile pour nous. Savoir dire non dans une société où tout est permis. Où tout est permis personnellement parce que, après tout, j'ai le droit de tout. C'est moi. Non, oser dire non en donnant nos repères, nos valeurs, opposer le bien au mal, opposer le vrai au faux, l'équité et la justice à l'injustice, l'écoute à l'arrogance, à l'ignorance, le respect à l'injure, la charité à l'indifférence, l'accueil à l'oubli, le sourire simplement au mépris et l'amour à la haine. C'est là le plan de Dieu. C'est là l'évangile. C'est cela, vivre la bonne nouvelle. J'ai trouvé dans un livre qui n'a rien du tout à voir avec la religion, qui s'appelle « Sel de mer, pouvoir caché », qui est un livre scientifique, cette phrase d'un médecin qui a écrit ce livre, qui dit « Le sel de mer naturel aide à entretenir la vie, détruit les bactéries nuisibles et améliore notre bien-être général. » Je me suis dit, ça c'est une belle phrase que le Christ aurait pu prononcer. Et j'ai trouvé dans cette affirmation profane, pour nous, un grand encouragement. Et j'aimerais reprendre les trois points qu'il y a dedans. Et ça sera ma conclusion aujourd'hui. Entretenir la vie. Donc ce sel a le pouvoir d'entretenir la vie. En entretenant la nôtre, notre vie, avec Dieu, nous serons ce sel qui a de la valeur pour ceux qui nous entourent et qui contribue et permet la vie. Le deuxième atout du sel était détruire les bactéries nuisibles. Détruire nos bactéries nuisibles. La parole de Dieu peut détruire nos bactéries nuisibles. Redevenir pur au dedans, purifié et porté par l'Esprit de Dieu pour devenir alors aussi des témoins qui vont apporter cette purification à l'extérieur. Et puis, ce que j'ai trouvé le plus beau, c'était améliorer notre bien-être général. Et j'ai pensé que ce bien-être général que nous, sels, nous allons améliorer, ça pouvait bien être notre société. Et nous, sels de la terre, la société a besoin de ce sel. Si nous recherchons, cultivons, retrouvons cette saveur, mais croyons ce que dit l'Évangile, le bien-être du monde entier, en général, va être amélioré. Alors c'est tout petit le sel. Nous, nous sommes tout petits. Mais telle est notre mission, telle est notre réflexion et notre engagement. Nous devons, ce mot devoir, on parle beaucoup plus de ces devoirs, hein, toujours plus de ces devoirs que de ces obligations, vous le savez, mais devoir, nous devons faire. Mais ce devoir n'est pas une contrainte. Ce devoir, c'est une liberté. C'est ma liberté de faire cela parce que je suis enfant de Dieu. C'est ma liberté de vivre cela en tant qu'enfant de Dieu. Et non pas comme un fardeau qu'on me donne. Le Christ est venu pour libérer, pas pour porter un poids. Les poids que nous les avons posés au pied de la croix. L'Esprit nous a rendus libres, libres de suivre le chemin du Christ. La Bible nous offre une comparaison révélatrice des deux attitudes possibles d'un chrétien par rapport à son entourage. Et j'aimerais terminer avec cette réflexion. Dans les Proverbes, au chapitre 25, le verset 26, nous lisons, vous savez, dans les Proverbes, il y a souvent des comparaisons entre deux extrêmes. Nous lisons ce verset. « Comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. » Quel beau témoignage, de l'eau fraîche pour une personne fatiguée. Et le contraire, c'est comme une fontaine troublée et une source corrompue, ainsi est le juste qui chancelle devant le méchant. Je vous invite à réfléchir à cette phrase et que le monde puisse ne pas nous percevoir comme une fontaine troublée, mais comme une eau fraîche, vive, où il pourra venir se désaltérer et trouver la vie. Ainsi, nous serons à notre place, et grâce à Dieu, nous serons celle de la terre, et nous serons lumière du monde. Amen. Je vous invite à un petit temps de silence, et si une personne ou deux veulent prier, qu'elle le fasse librement.
Seigneur, par cette petite substance, tu nous interpelles. Tu nous montres nos faiblesses. Mais tu n'es pas un Dieu qui veut nous enfoncer, Seigneur. Tu es un Dieu qui veut nous relever. Et nous voulons te remercier parce que tu nous donnes la vie et tu nous la donnes en abondance. Aide-nous, Seigneur, à garder avec toi cette relation d'amour. Remplis-nous de ton esprit pour que nous puissions être ce sel, cette lumière. Seigneur, tu as besoin de nous dans ce monde. Comme témoin, nous voulons te prier que tu nous remplisses de ton esprit, de ton amour, pour que nous ayons de la saveur à tes yeux, pour que les gens se rendent compte que nous sommes utiles dans cette société. Père, nous te remettons tous ceux qui sont au travail, dans ta mission, tous ceux qui sont ce sel efficace. Seigneur, aide-nous les uns les autres à rechercher ta volonté pour nous. Nous te prions que tu nous guides dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui viennent, à être tes témoins, là où tu nous places, les uns et les autres. Amen.
J'aimerais partager avec vous les annonces. Les annonces concernant la vie de l'Église cette semaine. Donc cet après-midi, nous avons à 14h, nous allons d'abord un pique-nique pour ceux qui veulent rester pique-niquer ici, mais nous avons à 14h une réunion de membres avec deux sujets principaux, donc réflexion et projet sur l'organisation de l'Église, et puis réflexion et projet sur les mises aux normes et l'évolution de nos locaux. Il y aura une garderie, c'est important de pouvoir rester partager cela. On a des choses à discuter les uns les autres dans la joie de pouvoir partager, dans la liberté de pouvoir partager aussi. On vous invite vivement à prendre ce temps cet après-midi. Mardi, réunion de prière, cellule de Prévesin, pardon, à 20h30 chez Emmanuel et Rebecca. Mercredi, la chorale. Jeudi, cellule de Gex, c'est chez Didier Loredan. Je n'ai pas les nouvelles de la cellule de Collonges, mais vous trouvez sur le site, je pense, Pierre ne me les a pas données. Groupe de jeunes, samedi, c'est à 17h. Merci Rémi. Et puis dimanche, notre culte ici, dimanche, c'est la sortie des écoles du dimanche. Alors, j'ai une petite info de la part d'Emmanuel qui me fait passer. Dimanche prochain, 17 juin, sortie des écoles du dimanche. Départ 9h30 à l'église. C'est pour les parents, hein. Écoutez bien, départ 9h30 à l'église, retour 17h30 à l'église. Chaque enfant devra avoir une pièce d'identité, une autorisation de sortie du territoire, Un pique-nique, une gourde, un caouet, une casquette. Selon le temps, mais prévoyez quand même tout ça. Chaque parent recevra par email un récapitulatif plus une autorisation à remplir pour participer à la sortie. En cas de mauvais temps, la sortie sera annulée. Voilà, donc ça va suivre par informatique. Vous allez avoir toutes les infos qu'il faut. Voilà, est-ce que pour la semaine, j'ai oublié quelque chose? Alors, j'aimerais donner encore deux autres informations ici. Bon, c'est l'anniversaire de Nelly aujourd'hui. Elle a 80 ans. Mais Nelly, elle n'est pas là. Je pense qu'elle est restée... C'était hier. Donc, on pensait, bien sûr, c'était hier. Il n'y a pas qu'elle non plus. Hein. Il y a un tas d'autres, hein, le 9, là. C'est une grande partie de l'Église, le 9, là. On pense à chacun. Bon anniversaire à chacun qui avait son anniversaire hier. Pensez à Nelly. On remercie aussi Dieu pour la présence fidèle de René et de Nelly, aussi ici, depuis des années. Deux informations. Si une famille de l'Église cherche pour les deux mois qui viennent, juillet et août, une jeune fille au pair, elle se rapproche d'Anne-Lise qui aurait une solution à leur proposer. Anne-Lise qui est là. Donc une jeune fille au pair pour dépanner deux mois, c'est aussi pour dépanner la jeune fille et la famille de la jeune fille, je ne vous cache pas, mais ça peut être intéressant aussi. Donc si vous cherchez quelqu'un pour deux mois, vous vous rapprochez d'Anne-Lise. Et puis vous dire qu'à la fin, à la sortie dehors, vous trouvez dehors deux tables. Il y a un bric-à-brac dessus. De toutes sortes, ce sont les objets trouvés qui traînent régulièrement. Il y a encore des trucs, je crois, là, souvent, là. Enfin, que ça traîne tout le temps. Alors, ces objets trouvés, vous allez faire un tour sur les deux tables qu'il y a, vous reprenez ce qui est à vous. Si vous ne reprenez pas, ça sera emmené et donné pour une œuvre de charité dès aujourd'hui. On ne discute plus, là. Bon, maintenant, on donne. Donc, il y a de beaux goûts, tout ce qui traîne, il y a de la vaisselle. Vous savez, on fait un pique-nique, on fait une tarte, puis on oublie le plat. Régulièrement. Enfin, des habits, des choses comme ça, vous trouverez. Voilà. Pas d'autres informations ? Alors, je vous invite à vous lever. Dans le début du chapitre que j'ai lu tout à l'heure, il y a 9 fois le mot « heureux ». C'est à ça que Dieu nous invite. À être heureux, mais on pourrait être heureux que si notre lumière brille. Et c'est la fin de notre lecture de ce matin, que votre lumière brille ainsi devant les hommes, voir vos bonnes œuvres et glorifie votre Père qui est dans les cieux. Que Dieu vous bénisse chacun et vous donne vraiment le chemin à suivre auprès de lui dans le monde. Soyez bénis. Amen.